Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera ce week-end. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On a prévu des activités, des choses qui puissent faire tout seul quand je suis moi en télétravail et en visio. De la lecture, un peu de télé, un peu de console.
Un parfum de vacances pour les enfants, le début de la galère pour les parents. Alors que les écoles ont fermé ce soir pour les trois prochaines semaines, difficile de s'organiser en si peu de temps. Les assistantes maternelles pourront bel et bien travailler pendant le confinement. Le gouvernement donne son feu vert, mais recommande aux parents de n'avoir recours aux nounous qu'en cas d'absolue nécessité. Eux jugent absolument nécessaire de quitter la capitale tant que c'est encore possible. Les franciliens se ruent dans les gares pour se mettre au vert. Le confinement à Paris, non merci. Les restrictions de déplacement concerneront tous les Français, même ceux ayant été vaccinés. La décision aujourd'hui du Conseil d'État pour qui la vaccination n'élimine pas complètement le risque de contamination. Le gouvernement réagit après l'enquête d'Europe 1 sur la lenteur du déploiement des autotests. Ils seront finalement en vente libre dans les pharmacies à partir du 12 avril, annonce ce soir Olivier Véran. Dans ce journal également, trois personnes en garde à vue après une expédition punitive qui a fait 2 morts à Pontoise en région parisienne. La justice rouvre le dossier sur la mort d'une gendarme. Sa famille n'a jamais cru à la thèse officielle d'un suicide pour raison personnelle. Et puis le rugby, Toulon éliminé de la Coupe d'Europe par le Covid. La météo, elle sera mitigée demain avec des températures encore en baisse sur la moitié nord, des nuages dans le nord-ouest et du soleil quand même partout ailleurs, nous dira Anissa Haddadi. L'interview écho dans 20 minutes. Les entreprises sont de plus en plus la cible de cyberattaques et pour s'en prémunir, un guide sur la sécurité numérique vient d'être publié. Son auteur, Daniel Benabou, sera l'invité d'Aurélien Fleureau. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fini le brouhaha dans les cours de récré, les attroupements devant les grilles des bahuts. Tous les établissements scolaires ont fermé leurs portes ce soir pour 3 semaines, 4 pour les collèges et lycées. Pour autant, l'école n'est pas finie. Les cours se feront à distance jusqu'au début des vacances, vendredi prochain. Et c'est bien ce que craignent les parents, revivre le scénario du premier confinement. Benjamin Peter, vous êtes notre correspondant à Toulouse.
Oui, à la sortie des classes tout à l'heure, on voyait des parents s'encourager. Allez, ce n'est que 3 jours et demi de classe à la maison finalement, mais Isabelle appréhende le retour des devoirs à la maison pour son fils de CE2 pendant qu'elle télétravaille.
L'an dernier, ça a été du sport, donc je pense que cette année aussi. En plus, du coup, le télétravail est quand même mieux organisé, donc j'ai plus de visio. On a prévu des activités, des choses qu'il puisse faire tout seul quand je suis moi en télétravail et en visio. De la lecture, un peu de télé, un peu de console, et puis aussi la solidarité entre parents d'élèves quand même.
Nathalie, elle est infirmière, il a fallu s'organiser très vite, et pour elle, tout n'est pas encore calé.
On avait prévu la semaine de vacances qui est décalée. On avait prévu des gardes sur des jours où ils étaient à l'école, les gardes de nuit où il faut dormir la journée avec les enfants à la maison. Surtout le délai d'organisation de 48 heures est un peu fou.
Pour Ambre qui ne travaille pas, ce sera beaucoup plus facile forcément. Pour elle, la fermeture des classes à répétition, ça ne pouvait plus durer.
De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, quoi. Ceux qui sont au collège, ils sont qu'à contact tous les 3 jours, donc il y a un moment, c'est plus possible, quoi. Et lui aussi, il a été qu'à.
Ils ont tous été qu'à contact.
Mais maintenant, ce que ses parents espèrent, c'est que cette fermeture des écoles aura un effet sur l'épidémie et que le calendrier présenté par le président de la République sera respecté.
Benjamin Peter, à Toulouse pour Europe 1, le calendrier, le voici. Rentrée des classes le 26 avril pour les maternelles et primaires. Collégiens et lycéens devront en revanche attendre encore une semaine, le 3 mai. Et pour tenir jusque-là, éviter de s'arracher les cheveux, à jongler entre télétravail et cours à domicile, il y a la solution garde d'enfants. Le gouvernement avait dans un premier temps envisagé d'interdire le travail des assistantes maternelles. Mais finalement, Olivier Samin, l'exécutif, renonce.
Oui, les assistantes maternelles pourront continuer à accueillir des enfants. Mais les parents sont encouragés à éviter au maximum ce mode de garde afin de tout faire, dit le communiqué du ministère, pour freiner la circulation du virus. Sachant qu'une étude de l'Institut Pasteur a montré que le risque d'infection chez les assistantes maternelles est plus élevé que dans les crèches. Le gouvernement souhaite donc que les parents n'y aient recours qu'en cas d'absolue nécessité et fait appel à leur esprit de responsabilité collective. Alors que va-t-il se passer si les parents suivent cette recommandation et renoncent à déposer leurs enfants? La règle, qui avait été mise en œuvre lors du premier confinement, s'appliquera. Les assistantes maternelles devront se mettre d'accord avec les parents pour être admises à un dispositif d'indemnisation qui s'apparente au chômage partiel, même si ça n'en est pas au sens strict. et qui leur permettra de toucher 80% de leur rémunération. Un taux que les syndicats d'assistante maternelle jugent insuffisant.
Olivier Samin, beaucoup de Français n'ont pas attendu cette annonce pour décider de mettre les voiles, notamment ceux qui habitent dans les grandes villes comme Paris, la capitale, ses monuments et musées tous fermés, ses rares espaces verts pris d'assaut à la moindre éclaircie, ses appartements où chaque mètre carré est compté. Voilà ce qu'ont décidé de fuir en ce week-end de Pâques nombre de Parisiens avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'à lundi soir, les déplacements interrégionaux sont tolérés pour aller s'isoler à la campagne ou emmener les enfants chez leurs grands-parents. Message parfaitement reçu, comme l'a constaté à la gare Montparnasse notre reporter Laura Taouchanoff.
On se croirait au début des vacances d'été. Le hall de la gare grouille de monde et vu le nombre de caisses transportant des animaux, les voyageurs ne s'échappent pas juste pour ce week-end de Pâques. Devant leurs immenses valises, Florian et Marion attendent leur train pour aller se confiner avec d'autres camarades de leur école.
On part se confiner tous ensemble en province, dans une grande maison pour avoir un bon cadre de travail entre amis.
On est en prépa, donc on a un rythme de travail assez élevé. Partir ensemble pour s'aider, travailler, etc., ça va être vachement bien. Un mois, normalement.
Beaucoup de parents doivent eux aussi remédier à la fermeture des écoles. Anne-Claire part déposer son fils de 3 ans chez les grands-parents.
C'est arrivé très soudainement, donc le temps de s'organiser. Le petit va aller chez ses grands-parents et après, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc je vais dire à mon employeur que je peux pas me rendre à mon travail. Lui, certainement, va chercher des œufs dans le jardin. Lundi, voilà, il va profiter du grand air.
Une tolérance le temps d'un week-end qui permet à Suzy de s'aérer au-delà d'un rayon de 10 km avant la reprise du travail mardi, direction le sud-ouest.
J'ai un petit appart de 45 mètres carrés, sans balcon, sans rien, donc ça fait du bien de ne pas rester enfermé tout le temps. Au moins pour le week-end de Pâques, que les gens puissent un petit peu s'aérer l'esprit.
En gare Montparnasse, les billets s'arrachent depuis hier. Ce soir, quasiment tous les TGV sont complets.
Le reportage de Laura Taouchanoff à la gare Montparnasse à Paris. Jusqu'à lundi soir, donc, il est possible de quitter sa région, mais passé ce délai, fin de la tolérance. Les contrôles seront stricts dans les gares et sur les autoroutes, a rappelé ce matin sur Europe 1 le secrétaire d'État au transport. Des restrictions de déplacement qui concerneront tous les Français, même ceux ayant été vaccinés. Décision aujourd'hui du Conseil d'État pour qui la vaccination n'élimine pas complètement le risque de contamination. En clair, on peut avoir reçu 2 injections et être quand même porteur du virus. Les études à ce sujet sont encore parcellaires. Voilà pourquoi la prudence s'impose, explique la virologue Christine Rousiou, membre de l'Académie de médecine.
Nous n'avons pas assez de recul du tout pour autoriser une liberté totale aux gens vaccinés, même avec 2 doses. Là, il reste encore un risque d'acquisition du virus. Et puis, comment faire pour distinguer les vaccinés et les non-vaccinés? Ça peut induire des dérives. Les jeunes sont suffisamment, je dirais, maltraités en ce moment avec l'absence de pouvoir se réunir. Je crois que vraiment, si en plus il n'y a que les vieux qui auraient le droit de se déplacer, ce ne serait pas terrible. Et surtout, la population vaccinée n'est vraiment pas très importante, donc elle doit faire attention vis-à-vis de celle qui n'est pas vaccinée. On espère bien que fin août, on aura un maximum de la population vaccinée, y compris chez les jeunes. Et à ce moment, on n'aurait même plus besoin d'avoir des restrictions entre les vaccinés et les non-vaccinés, puisque les non-vaccinés seraient juste les enfants.
La virologue Christine Rousiou, jointe par Romain Noquet pour Europe 1. C'est un outil qui va permettre de changer d'échelle, de dépister le Covid, pas seulement quand on a un doute, mais de façon régulière. Les autotests, ces dispositifs qui ont reçu le feu vert de la Haute Autorité de Santé il y a 2 semaines. Europe 1 vous révélait ce matin que le ministère de la Santé freinait leur mise sur le marché. Un frein qui, suite à cette enquête diffusée ce matin sur Europe 1, a été levé ce soir par Olivier Véran.
À partir du 12 avril, les pharmacies pourront vendre des autotests à ceux qui souhaitent en acheter. Et donc les autotests, ce sera un complément utile pour ceux qui souhaitent avoir des tests, pourquoi pas chez eux.
Juste les pharmacies ou aussi en grande surface ?
Non, il faut qu'il y ait un professionnel de santé qui puisse vendre ces tests-là, en expliquer le fonctionnement. C'est pas si simple. Moi, j'en ai fait, j'essaye tout ce qui passe. Donc, j'ai fait un autotest. C'est quand même 3 cm de gros coton-tige qu'il faut mettre dans le nez. Ensuite, il faut manipuler un produit, des gouttes, arriver à avoir une lecture. Donc, c'est un produit de santé. Donc, c'est vendu en pharmacie. L'avantage des pharmacies, c'est qu'il y en a près de 20 000. C'est qu'elles sont ouvertes quasiment tous les jours et qu'on en trouve partout.
Le ministre de la Santé qui répondait aux médias en ligne brut.
Europe Soir. Le 22-22-30.
3 hommes sont en garde à vue après une rixe qui a fait 2 morts et plusieurs blessés hier soir à Pontoise, en région parisienne. Tout est parti d'un vol de moto. 3 hommes ont voulu récupérer le 2-roues, mais cela a dégénéré et tourné à l'expédition punitive, Guillaume Bier.
Oui, un affrontement sanglant en représailles à ce vol de moto commis quelques heures auparavant. Hier soir, donc, un trio décide de se rendre à Pontoise dans ce quartier des Hauts de Marcouville pour récupérer l'engin. Effectivement, sur place, ils ont repéré la moto volée pilotée par un jeune homme sur lequel ils ont délibérément foncé à bord de leur fourgon utilitaire. La violence du choc a provoqué de graves blessures au pilote de 21 ans qui a succombé dans la nuit. Après cette collision, un affrontement a éclaté avec des habitants de la cité et les agresseurs ont ouvert le feu au pistolet de petit calibre. Bilan, un mort, un homme de 35 ans. Dans la foulée, intervention de la police, un premier suspect blessé est arrêté sur place, un deuxième se rend au commissariat. Le troisième a été arrêté à l'hôpital. Ce sont des membres de la communauté des gens du voyage, confirme le procureur de Pontoise. Tous déjà connus de la police. Les deux plus jeunes ont 23-24 ans, le troisième a 57 ans. Ils sont en garde à vue pour meurtre, interrogés par les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Cergy.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, l'un des deux policiers percutés ce soir par une voiture est décédé. Le conducteur du véhicule a lui été tué après avoir brandi un couteau. L'incident a eu lieu tout près du Capitole à Washington. Le Congrès américain a immédiatement été bouclé. Cette attaque ne paraît pas lié au terrorisme, selon la police. L'enquête du Capitole avait été l'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'assaut meurtrier du 6 janvier mené par des manifestants pro-Trump. Retour en France où la justice a rouvert le dossier de la mort d'une gendarme et fait droit à sa famille qui n'avait jamais cru à la thèse officielle d'un suicide pour raison personnelle. Myriam Sacri, 32 ans, avait été retrouvée morte en septembre 2011 dans son appartement de fonction. Elle se plaignait depuis des mois d'être harcelée par des collègues. Mais la plainte de sa famille avait débouché sur un non-lieu confirmé en appel et en cassation. Eh bien, décision rarissime aujourd'hui. La cour d'appel de Lyon a ordonné la reprise d'une information pour harcèlement et homicide involontaire. Une décision logique pour Racina, la sœur de Myriam Sacri.
C'est grâce à des gendarmes qu'on a cette réouverture. Parce qu'il y a certains gendarmes qui sont venus de manière spontanée pour nous dire « Oui, effectivement, Myriam a été harcelée. Oui, effectivement, elle était dans le collimateur. Oui, effectivement, on voulait qu'elle quitte la gendarmerie. » On espère que maintenant ces gendarmes puissent être interrogés de manière libre et sans crainte surtout. On veut une véritable enquête et qui soit faite indépendamment de la gendarmerie. Notre sœur est avec nous tout le temps. C'est elle qui nous donne ce courage et parce que ma sœur était quelqu'un de tellement engagé dans la vie citoyenne française qu'on se doit d'être à la hauteur. Mais on essaie tout doucement et on est là, on est là et on sera là jusqu'au bout en fait.
Racina Sacri, la sœur de Myriam Sacri, jointe par Marion Dubreuil pour Europe 1. La cellule de signalement dédiée aux violences sexuelles dans le sport a fait aujourd'hui un nouvel état des lieux et il est édifiant. En un an, 445 personnes ont été mises en cause via des signalements. Il s'agit d'éducateurs professionnels ou bénévoles. 96% de ces agresseurs sont des hommes et 83% des victimes des femmes, quasiment toutes mineures au moment des faits. Cette cellule avait été mise en place l'hiver dernier après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol qui a raconté dans un livre avoir été violée par son entraîneur. Après le report annoncé hier de la course cycliste Paris-Roubaix, c'est au tour des 24 heures moto au Mans d'être reporté sine die. En raison de la situation sanitaire encore et toujours, l'épreuve devrait se dérouler les 17 et 18 avril. Le Covid qui décidément est un trouble fait pour ne pas dire autre chose. En rugby, les Toulonnais devaient disputer ce soir en Irlande leur 8e de finale de Coupe d'Europe contre le Leinster. Devaient, car le match a été annulé à la toute dernière minute. Un cas positif a été découvert dans l'effectif du RCT. C'est donc retour à la maison et fin de l'aventure européenne pour les Varois, Cyril de la Morinerie.
Oui, le club de Toulon est très en colère ce soir. Son président Bernard Lemaître ne digère pas cette décision et la qualification donc du Leinster. C'est aujourd'hui à 13h30, à 5h seulement du début du match, que les organisateurs ont annulé cette rencontre. Tout cela parce qu'un joueur de Toulon, dont le poste est première ligne, a été testé positif mercredi. Il est resté à l'isolement en France. Le reste de l'équipe est arrivé hier à Dublin, persuadé que le match aurait lieu. D'autant que de nouveaux tests pratiqués hier ont confirmé que les joueurs sur place étaient bien tous négatifs. Nous sommes traités comme des Kleenex. S'emporte sur Europe 1, Bernard Lemaître.
Du coup, colère, dégoût, oui, bien sûr, on est un peu écœuré. On est vraiment traité comme des Kleenex, presque. À la rigueur, on aurait pu admettre qu'à la suite du cas positif de mercredi dernier, il nous a dit non, là, il y a un risque potentiel qui est trop élevé, le match est annulé, vous ne déplacez pas. Mais jusqu'au dernier moment, on est dans la certitude qu'on va jouer, quoi. On est les mauvais garçons, quoi.
Une mésaventure de plus pour le club varois qui avait refusé fin décembre d'affronter la province galloise des Scarlets, frappée alors de plein fouet par le coronavirus. Ce soir, les Toulonnais sont donc éliminés et menacent désormais de boycotter la Coupe d'Europe la saison prochaine, une compétition qui ne les motive plus.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Eux sont toujours motivés. Les Rochelais affrontent en ce moment les Anglais de Gloucester, 8e de finale de Coupe d'Europe qui lui a été maintenue. Et pour l'heure, les Charentais mènent 18-13, 49e minute de jeu. En foot, gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Marco Verratti a été testé positif. Le milieu italien sera donc forfait mercredi pour le 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. La météo, Anissa Haddadi, le soleil va rester bien présent demain.
Oui, c'est la bonne nouvelle qu'on va essayer de retenir pour demain, hein, Julien, en effet. Alors nous aurons des petites exceptions sur les côtes de la Manche, des Hauts-de-France, jusqu'à la Bretagne, en passant par la Normandie et le Cotentin. Le ciel est un petit peu plus couvert demain, en début de journée, plus lumineux dans l'après-midi. Dans le Pays Basque et la région toulousaine, là, les nuages bas vont dominer. Au bord de la Méditerranée, nous avons toujours, jusque sur la Côte d'Azur et en Corse, des entrées maritimes qui apportent de la grisaille. Partout ailleurs, vous le disiez, Julien, le temps reste ensoleillé. Et c'est le vent qui va se lever demain. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane soufflent jusqu'à 80 km/h. Sur les côtes de la Manche, toujours cette bise qui vient rafraîchir l'atmosphère. Et une bise qui va souffler aussi sur le centre-Val de Loire, le Val de Saône, la vallée du Rhône. Et qui pourra atteindre 50 km/h dans les terres. Les températures, elles continuent de baisser demain avec seulement 1 à 6 degrés sur la moitié nord le matin, 5 à 11 sur la moitié sud. Dans l'après-midi, nous aurons 9 degrés à Dunkerque, 12 à Lille, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris et Poitiers, 19 degrés pour Bordeaux et Marseille, 22 à Albi et 24 la maximale pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Je vous invite à rester avec nous parce que dans un instant, c'est l'interview écho. Les entreprises sont de plus en plus la cible de cyberattaques et pour s'en prémunir, un guide sur la sécurité numérique vient d'être publié. Son auteur, Daniel Benabou, sera l'invité dans quelques instants d'Aurélien Fleurot. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et non, pas de top à Wall Street ce soir, toutes les bourses étaient fermées en ce vendredi saint. On passe donc directement à l'interview écho. Aurélien Fleurot, c'est à vous.
Bonsoir Daniel Benabou.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du CEDIG, le Conseil de l'économie et de l'information du digital. Et si j'ai eu envie de vous appeler ce soir, c'est parce que vous venez de publier aujourd'hui un guide sur la sécurité numérique pour les dirigeants et dirigeantes. Alors la cybersécurité, on l'a vu encore tout récemment dans l'actualité, c'est un sujet très sensible pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités, les hôpitaux. Donc l'idée de ce guide, bien, c'est de donner des clés aux chefs d'entreprise, savoir comment bien se protéger.
Absolument, je crois que ça devient absolument essentiel. Vous venez de le dire, on observe une accélération un peu inquiétante des cyberattaques. C'est une organisation, enfin, le cybercrime s'organise, se professionnalise et donc ils vont chercher à être de plus en plus performants. Donc ça dessine une tendance qui n'est pas très favorable. Et hélas, la technologie est également au service des méchants. Donc ça donne une équation, voilà, où il faut que maintenant les chefs d'entreprise, toutes les personnes à la tête d'organisation prennent ce sujet absolument très au sérieux. Il y a des choses à faire, voilà, pour améliorer la situation et ne pas être impacté trop lourdement quand on est touché par une attaque.
Oui, ceux qui attaquent évoluent, innovent, se mettent à jour, et donc il faut forcément que les dirigeants d'entreprise fassent pareil.
Absolument. Non, mais il faut que les dirigeants d'entreprise qui ont une meilleure conscience de ce problème, mais je crois qu'il faut encore travailler pour que l'appropriation soit davantage active, on va dire. Oui. Il faut qu'ils mettent en place dans leurs entreprises des dispositifs de sécurité. Il y a des solutions qui existent. Et je crois que un des enjeux majeurs, c'est difficile d'imaginer ne jamais être touché par une attaque. il faut simplement éviter que l'impact soit mortel. Vous savez, c'est un peu comme en voiture, si vous roulez avec des freins défaillants, sans ceinture de sécurité, le moindre choc peut être dramatique. Si vous avez vos ceintures de sécurité et des freins en bon état, et vous roulez à vitesse réduite, vous avez de la tôle froissée. Bon. Mmh. Et ben, dans l'entreprise, c'est exactement ce qui se produit, et il y a encore beaucoup trop d'entreprises. Les grandes sont en général assez musclées, mais qui, enfin, beaucoup d'entreprises encore n'ont pas de dispositifs qui permettent, voilà, de les garantir, de diminuer l'impact en cas d'attaque un peu difficile.
Oui, je vois que ce guide a été réalisé en collaboration avec le MEDEF, la CPME, mais aussi l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, donc destiné à tout type d'entreprise. J'ai vu que 43% des cyberattaques visaient les petites entreprises. Tout simplement parce qu'elles sont plus vulnérables, elles ont un petit peu moins de moyens.
Oui, alors vous savez, absolument. Bon, c'est près de la moitié, mais je crois que en réalité, tout le monde est touché. Donc oui. Les grands, les petites, et vous savez ce qu'on explique dans le guide d'ailleurs pour donner des éléments de contexte, c'est que le cybercrime s'organise donc comme une économie parallèle. Donc il y a des criminels qui, ben, cybercriminels qui attaquent les grands comptes parce que bon, ça prend plus de temps mais c'est plus profitable, et d'autres qui attaquent des petites entreprises, c'est plus facile. Ouais. Mais en règle générale, vous savez, la plupart des attaques sont opportunistes, c'est-à-dire que ils lancent des filets comme ça un peu géants et puis tombe dans le piège, petite, grande, moyenne.
J'ai retenu aussi un autre chiffre, 60% des cyberattaques dues à des comportements inadéquats. Donc bon, bah voilà, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer. Parfois, oui. On ne fait pas attention. Mais alors du coup, je me suis dit qu'il y en a 40% qui sont quoi? Qui sont inévitables. De toute façon, on sait qu'on va se faire attaquer.
Ce que veut dire ce chiffre, c'est alors qu'il y a à la fois un chiffre un peu terrible et encourageant. Terrible, ouais. Parce que ça veut dire qu'encore maintenant, 60% des attaques, enfin, ont des impacts lourds, ou plus de la moitié en tout cas, parce que et l'origine est un paramétrage, une erreur humaine, une négligence, une absence de mot de passe par exemple, ou un mot de passe très faible. Donc ça, c'est terrible parce que ça devrait plus arriver, et c'est encourageant parce que si, grâce notamment à notre guide, et à une meilleure information, on corrige ça, on a un levier fantastique pour améliorer la situation. Alors les 40% autres, non, c'est des attaques plus sophistiquées. Voilà, c'est des attaques plus sophistiquées ou sournoises, voilà, qui font que l'attaque passe, quoi.
Ouais. Et donc, quelles seraient les deux, trois choses vraiment indispensables à mettre en place de manière systématique?
Bon, d'abord, il faut avoir identifié quelles sont les activités les plus vitales à l'entreprise, à son fonctionnement, d'accord? Ouais. En se disant, si jamais celle-ci était affectée, comment je m'y prendrais? Donc, et évidemment, les protéger en priorité. Donc ça, c'est numéro un. Deux, en termes de données, évidemment, l'entreprise a besoin de données pour fonctionner, clients, internes, etc. Voilà, il faut savoir aussi où se trouvent les données sensibles, celles qui sont indispensables aussi au bon fonctionnement de l'entreprise, et savoir les protéger, ou en tout cas aussi savoir les sauvegarder indépendamment de son système d'information pour pouvoir les récupérer très vite si elles étaient compromises. Le but du jeu, encore une fois, étant d'empêcher des attaques ou d'en diminuer l'impact.
Et il y a aussi dans ce guide des exemples frappants, des conséquences très concrètes d'une cyberattaque, et on voit que ça peut aller même jusqu'au redressement judiciaire de l'entreprise.
Oui, il y a effectivement une entreprise comme Lee Charmel a été attaquée par un rançon logiciel qui a bloqué son système, et c'est elle-même qui a souhaité se mettre en redressement judiciaire parce que pour pouvoir avoir le temps de reconstituer son réseau, de reconstituer son activité.
Et avec la crise sanitaire, on le sait, hein, on a amené souvent les ordinateurs, les smartphones, les tablettes professionnelles à la maison. Là aussi, c'est redoublé de vigilance, alors qu'on entre dans une période où il y aura peut-être encore plus de télétravail pour certains.
Oui. Bah si vous voulez, la difficulté, c'est que les systèmes informatiques maintenant sont extrêmement ouverts et de plus en plus connectés et interconnectés. Donc alors avec les collaborateurs maintenant qui travaillent à distance, et vous l'avez dit, le télétravail, ça apporte d'autres surfaces, ça augmente la surface d'exposition au risque, ça augmente la capacité avoir une négligence, avoir une mauvaise utilisation des outils qui sont mis à la disposition, même si c'est évidemment tout à fait involontaires.
Oui, c'est ça.
Ça crée des fragilités qui peuvent être exploitées par des problèmes de cybermalveillance.
Et vous avez noté une recrudescence, une augmentation là, ces derniers mois ?
Oui, très très inquiétant, parce que quasiment, exponentiel, l'ANSSI, dans son dernier rapport, soulignait que en 2020, le nombre d'attaques par rançongiciel, avec chiffrement, donc le fait de crypter le système des entreprises, a été multiplié par 4. Et ces dernières semaines, encore hier, Pierre Fabre, le laboratoire, a subi une attaque qui a eu pour effet immédiat de bloquer une partie de l'activité. Donc, alors, eux étaient manifestement, ils communiquent en disant qu'ils ont pu reconstituer très vite leur système et donc repartir dans une activité à peu près normale, en 48 heures. Mais bon, il y a quand même un effet de souffle. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'ils auditent, qu'ils vérifient que tout est clair.
Bien sûr,
c'est pas neutre. Hein.
Redoubler de vigilance, c'est vraiment l'idée, l'objectif de ce guide sur la sécurité numérique que vous publiez aujourd'hui. Merci à vous, Daniel Benabou, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil de l'économie et de l'information digitale. Retour de l'interview Echo. Lundi, 22h20.
Et c'est vous qui serez aux manettes, Aurélien Fleureau, merci. On retrouvera en revanche Emmanuel Duteil, lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission consacrée au chocolat avec comme invité un grand chocolatier, Patrick Roger, meilleur ouvrier de France. 22h26 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Avant la fermeture pour un mois, la ruée dans les commerces, titre Ouest France, avec pour illustration une longue, très longue file d'attente devant un magasin. Une scène captée aujourd'hui à Nantes, mais qui va se reproduire demain partout en France, avant donc la fermeture pour 4 semaines de 150 commerces jugés non essentiels. Un nouveau confinement qui démarre dans la confusion, c'est la une du Figaro qui revient sur les récents cafouillages au sein du gouvernement. Deux semaines après le couac de l'attestation de sortie pour les déplacements de moins de 10 km, l'exécutif a relancé la machine administrative infernale, écrit le quotidien. Illustration avec le couac autour des nounous. Hier, Matignon annonce que les assistantes maternelles ne pourront pas continuer à exercer pendant ces 3 prochaines semaines. Rétropédalage aujourd'hui si finalement elles pourront bien continuer à garder les enfants. Manifeste des 343, la bataille de l'IVG n'est pas gagnée, titre pour sa part Libération. 50 ans après avoir brisé le tabou de l'avortement dans un texte fondateur qui ouvrira la voie à la loi Veil, 5 des 343 salopes racontent à Libération leur engagement. On n'imagine pas le courage qu'il leur fallait dans ces années-là pour mettre en avant l'intimité de leur vie, écrit Alexandra Schwartbrud. Si on leur avait dit alors que 50 ans plus tard, elles seraient contraintes de monter une nouvelle fois au créneau afin de réaffirmer la nécessité pour les femmes d'être libres de leurs désirs, de leurs choix et de leur destin, elle ne l'aurait sans doute pas cru, ajoute l'éditorialiste de Libé qui publie donc les témoignages et coups de gueule de Catherine Deneuve, Françoise Fabian ou encore Marina Vladi.
C'était les Unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et avant de passer le micro à Sabine Marin et la Libre Antenne, je vous propose d'écouter un peu de musique. Et quelle musique ? Le grand Sting accompagné de l'immense Eric Clapton. It's probably me, c'est dur à dire, sur Europe 1.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. We'll be right back.
voice that comes to your defense. The jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it.
Sting et Eric Clapton sur Europe 1. Et ça fait du bien, la musique, en ces temps confinés et troublés. C'est une thérapie en soi, tout comme la Libre Antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Quelle jolie transition. Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne qui débute donc maintenant.
Et on vous retrouve à 23h pour les prochaines infos.
A tout de suite.